Vous avez certainement suivi ces dernières semaines ce qui s'est passé en Espagne, cette déclaration d'indépendance de la Catalogne par rapport aux lois du pays d'Espagne. Et cette région d'Espagne a voulu, en tout cas une partie de sa population, vivre désormais selon ses propres lois. Et vous avez vu ce que ça donne, hein, les tensions, les conflits, maintenant les arrestations de certains ministres, dirigeants de la Catalogne, avec l'un d'eux qui s'est réfugié en Belgique, un mandat d'arrêt européen qui est demandé contre lui. Enfin, c'est compliqué comme situation. Quand nous sommes chrétiens, quand nous devenons chrétiens, Dieu nous libère, nous l'avons dit, rappelé tout à l'heure, de l'esclavage de la loi du péché. Nous ne sommes plus soumis à la loi du péché, mais au Saint-Esprit qui vit en nous et qui met en nous la loi de Dieu. C'est tout le message de l'épître de Paul aux Romains. Nous sommes aussi, ça c'est le message de l'épître de Paul aux Galates, libérés de l'esclavage de la loi de l'Ancien Testament. Est-ce à dire que les disciples de Jésus-Christ n'ont plus de loi à laquelle obéir et que seul le Saint-Esprit nous dit, nous révèle comment vivre? Jésus était-il à sa manière un sécessionniste, quelqu'un qui a fait sécession, comme en Espagne? Jésus était-il un séparatiste, un indépendantiste par rapport à la loi qui était en vigueur jusque-là, à savoir la loi de Moïse? De la réponse ou des réponses que nous donnons à ces questions découle notre manière de vivre entre, d'un côté, ceux qui ne veulent plus de loi, sous prétexte qu'ils vivent par l'esprit, et d'un autre côté, ceux qui pensent qu'être chrétien, c'est obéir à une liste de règles qui interdisent tous les plaisirs de la vie. Le défi que je vous propose ce matin, c'est d'essayer de comprendre, de bien comprendre, quelle est la position de Jésus par rapport à cette question, à ces questions, pour vivre d'une manière vraiment juste, qui plaise à Dieu, à la suite de Jésus. Simon l'a annoncé tout à l'heure, nous avons ce matin la prédication sur le thème de notre année. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est Jésus qui appelle ses disciples à témoigner dans ce monde qui est notre monde. Et je vous invite à ouvrir la Bible dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, dans ce fameux sermon sur la montagne, une série d'enseignements de Jésus que Matthieu a regroupé au début de son évangile. Et nous avons vu déjà les béatitudes, nous avons vu ce message qui nous sert de thème pour cette année. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, et nous reprenons ce matin la lecture, l'enseignement de Jésus. Matthieu chapitre 5 au verset 17, et nous lirons jusqu'au verset 20, donc juste quelques versets. Évangile selon Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20. Donc c'est de nouveau Jésus qui parle, il dit: Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est pourquoi celui qui transgressera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux autres à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas meilleure que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je vous fais tout de suite remarquer que dans notre texte de ce matin, Jésus parle à la première personne. Je vous dis. Et ça, c'est nouveau. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce que Jésus a dit dans le serment sur la montagne? Il a parlé de manière générale, de manière impersonnelle un peu. Il a dit, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont doux. Ça, c'est toutes les béatitudes que l'on trouve au début du chapitre 5 de Matthieu. Et puis ensuite, au verset 13, il s'adresse plus particulièrement à ses disciples, ceux qui se sont approchés de lui pour le suivre, et pas seulement pour écouter vaguement ce qu'il dit. Et Jésus leur dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Et là maintenant, Jésus parle à la première personne, et il fait deux déclarations solennelle. Vous voyez cette formule « je vous dis, je vous le dis » qui apparaît deux fois dans notre passage, verset 18, « en vérité je vous le dis » et au verset 20 « car je vous le dis ». Quand vous voyez ces formules où Jésus parle à la première personne du singulier, vous pouvez être sûr que vous avez là une déclaration solennelle de la part de Jésus. Et puis dans les deux prochaines prédications, j'annonce un peu déjà les prochains épisodes, nous aurons plusieurs illustrations pratiques de ce que Jésus est en train de nous rappeler ce matin. Vous avez entendu dire, mais moi, je vous dis. Vous avez entendu les anciens dire, vous avez entendu Moïse vous dire, mais moi, je vous dis. On continuera donc ce discours solennel de Jésus encore dans les deux prochaines prédications. Mais déjà ce matin, notez cette manière de parler de Jésus. Je vous dis. Et donc on va suivre pour cette prédication ces deux « je vous dis » de Jésus qui partagent notre texte en deux parties. Versets 17 et 18, qu'est-ce que Jésus nous dit de la loi, de ce que lui, il fait de la loi, donc Jésus et la loi, première partie. Et puis les conséquences que Jésus tire de cela, versets 19 et verset 20, je vous dis, et c'est nous et la loi, les chrétiens et la loi. Donc première partie, Jésus et la loi, versets 17 et 18, deuxième partie, les chrétiens et la loi, versets 19 et 20. Jésus et la loi. L'idée d'un Jésus révolutionnaire, d'un Jésus abolitionniste, semble déjà dans la mentalité de ses contemporains, peut-être même de certains de ses disciples à qui il s'adresse ici. Regardez verset 17, Jésus leur dit « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir ». Ne pensez pas comme les autres enseignants, ne pensez pas vous-même que je suis un révolutionnaire. Je vous le dis, déclaration solennelle, parole d'autorité, qui pourrait sonner comme un nouvel enseignement par rapport à celui des scribes et des pharisiens, les références religieuses de l'époque. Nous suivons aussi l'évangile selon Marc dans une série de prédications. Marc, chapitre 1, les gens s'étonnent. Qu'est-ce que c'est ? Disent-ils. Une nouvelle doctrine donnée avec autorité ? Marc nous dit, ils étaient étonnés de l'enseignement de Jésus, car il enseignait avec autorité et non pas comme les scribes. Et pourtant, Jésus, comme les scribes et les pharisiens, ont la même source d'autorité. La Torah, les prophètes, les psaumes, ce que nous chrétiens appelons l'Ancien Testament, la même Bible, et pas le même enseignement. L'enseignement de Jésus contraste avec tout autre enseignant de la loi. Pourquoi ? Les programmes d'enseignement scolaire sont les mêmes pour tous les élèves français. Et pourtant, cet enseignement est transmis différemment d'un professeur à un autre, d'un enseignant à un autre. C'est lié, entre autres, il y a aussi ce qui se passe du côté des élèves qui écoutent ou qui n'écoutent pas l'enseignement, n'est-ce pas ? Mais il y a, entre autres, la personne, la personnalité de l'enseignant, ses qualités pédagogiques, sa manière de comprendre et de transmettre des savoirs. Jésus, est-il meilleur enseignant que tous les autres ? Peut-être. Il est plus que cela. Il est, nous dit-il, celui qui accomplit le programme pédagogique du peuple de Dieu. Je relis le verset 17. « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » À la question « Jésus est-il un révolutionnaire ?» il répond « Non ». Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est venu accomplir et non abolir ? Le mot « accomplir » signifie ici « réaliser », »,« remplir », »,« porter à la perfection ». Par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a des prophéties, il y a des écrits des prophètes. Jésus est le Messie, annoncé depuis des centaines d'années par les prophètes. « Je suis venu, dit-il, pour accomplir. » Le prophète attendu, c'est moi. Il ne le dit pas comme ça parce que sinon il se fait lapider. Donc il le dit d'une manière un peu voilée. Mais à bon entendeur, salut. C'est au pied de la lettre là. Celui qui entend bien reçoit le salut. Le Messie est venu. Le temps est accompli, dit Jésus dans l'évangile selon Marc. C'est maintenant que le royaume de Dieu vient. Autre exemple, par rapport au texte de loi sur les sacrifices, on en a parlé un petit peu tout à l'heure dans le psaume 50. Et Simon l'a déjà mentionné, cette parole de Jean-Baptiste, « Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », ce que les sacrifices de l'Ancien Testament n'ont jamais réalisé. Ça c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous le rappelle. Jésus est non seulement l'agneau, mais il est aussi ce grand prêtre parfait, qui n'a pas besoin, lui, d'offrir de sacrifice pour son propre péché, parce qu'il obéit parfaitement à la loi. Jésus est à la fois victime et prêtre, celui qui offre sa propre vie pour que Dieu nous pardonne, une fois pour toutes, nos péchés passés, présents et futurs. Conséquence de cette réalité de la venue de Jésus, de sa première venue, Jésus, de fait disparaître le système des prêtres et des sacrifices que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Et nous l'avons rappelé tout à l'heure, c'est pour ça que nous n'avons pas de bélier, pas de pigeon à amener ce matin au temple à Jérusalem. Et que nous pouvons nous réunir ici ce matin. Parce que Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Et que par la foi, nous pouvons lui offrir ce sacrifice d'adoration et de reconnaissance. Mais le principe de la loi des sacrifices demeure. Nous n'avons plus besoin d'apporter de bélier pour que Dieu pardonne nos péchés, mais nous avons toujours besoin de revenir vers lui par la foi et la repentance, en nous rappelant que si nous n'avons pas de bélier à amener ce matin, Jésus, lui, est celui qui a souffert à notre place Et nous avons besoin régulièrement de revenir à l'obéissance à Dieu. Pas besoin de sacrifices d'animaux, mais nous avons toujours besoin de reconnaître, de confesser nos péchés. C'est l'apôtre Jean qui nous le dit. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Si nous confessons nos péchés, ce qui veut dire que sans confession, il n'y a pas de pardon de péché. Sans repentance, sans retour à Dieu. Nous pouvons croire que nous continuons à mener une vie chrétienne et nous pouvons donner aux autres et à nous-mêmes, pas à Dieu, l'impression que tout va bien spirituellement. Mais sans repentance, sans retour vers Dieu, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de communion avec Dieu et avec les frères et sœurs dans l'Église. Si nous vivons selon nos principes et non selon la parole de Dieu. Alors, Jésus annonce déjà la fin des temps. Tant que Jésus n'est pas revenu, ces principes bibliques de l'Ancien Testament, les textes de l'Ancien Testament, continuent de s'appliquer à nos vies. Verset 18, « En vérité, je vous le dis, déclaration solennelle de Jésus, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, donc jusqu'à la fin de notre monde actuel, jusqu'à ce que Jésus revienne, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, c'est-à-dire ne sera abrogé, ne sera annulé. Tout reste d'actualité. Iota, c'est le I dans l'alphabet grec. Un trait de lettre, peut-être vous avez déjà vu l'alphabet hébreu, il y a des lettres avec des traits. Vous enlevez un trait de lettre, c'est plus la même lettre, donc ça change le sens du mot, donc ça change le sens de la phrase. Par exemple, en français, le P et le R, majuscule, se différencient juste par un trait de lettre. Le R, si vous enlevez le trait en bas, ça fait un P. Pas de bol et ras-le-bol, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Et pourtant, on a juste changé un trait de lettre. On a rajouté un trait à pas, ça fait ra, et puis on a rajouté un petit trait à l, ça fait d, pas de bol, ras-le-bol. Vous voyez, c'est ça que Jésus dit. En conclusion, pour ces deux premiers versets, Jésus n'est donc pas venu annuler, abroger, abolir la loi de Dieu. Il est venu l'accomplir. Et il nous invite, avec ses disciples, à connaître et à mettre en pratique toute la parole de Dieu. Ancien Testament et Nouveau Testament. Alors, comment faire pour mettre en pratique toute la Bible, et en particulier l'Ancien Testament, parce que c'est des textes qui nous paraissent souvent lointains. D'autant plus que Jésus, par sa première venue et son sacrifice à la croix, a rendu certaines choses inutiles dans la pratique. Par exemple, obéir aux textes qui ordonnent les sacrifices d'animaux pour être pardonné par Dieu. C'est ce qu'on va voir dans le deuxième temps de cette prédication. Les chrétiens et la loi. Au début du verset 19, nous lisons « C'est pourquoi » ou bien « Celui donc qui transgressera » ce « donc », ce « c'est pourquoi » montre que là, Jésus tire une conséquence pratique pour ses disciples et pour nous de ce qu'il a dit de lui par rapport à la loi. Je relis verset 19 et verset 20. « C'est pourquoi celui qui transgressera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux autres à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, phrase solennelle, si votre justice n'est pas meilleure que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Tout ce qui est écrit dans la Bible vient de Dieu. Même le plus petit verset ou le plus petit commandement est important. Attention, tous les versets ou tous les commandements n'ont pas forcément le même poids, mais tous sont importants. Nous ne pouvons pas simplement écarter un texte de la Bible parce qu'il ne nous convient pas. Dans sa lettre à Timothée, sa deuxième, l'apôtre Paul rappelle que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc même les textes qui nous parlent de choses qui n'ont plus à exister dans notre vie spirituelle, par exemple apporter des animaux à sacrifier, ces textes restent pour nous pédagogiques parce qu'ils nous enseignent la volonté de Dieu dans l'histoire. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner et nous former. En négliger une partie, dit Jésus, c'est se retrouver à la place du plus petit dans le royaume de Dieu, verset 19. Et Jésus va même plus loin en disant qu'on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu sans obéir à Dieu d'une manière juste. Les scribes et les pharisiens, c'était les modèles de spiritualité, les références religieuses, ceux qui se donnaient comme modèle au peuple. C'était des gens très religieux. C'est des gens qui cherchaient à respecter scrupuleusement toute la loi de Dieu. Et Jésus dit à ses disciples, et par extension à nous ici, que notre justice, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, doit être meilleure que celle des scribes et des pharisiens. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici ? Dans les deux prochaines prédications, on verra des exemples concrets de ce que Jésus déclare ici, mais regardons déjà quelques instants. Quel est le problème des scribes, des pharisiens ? Pour être sûr d'observer les 248 commandements et les 365 interdictions de la loi, ils avaient compté. Les scribes et les pharisiens avaient ajouté tout un tas de règles qui encadraient la loi. Ces règles étaient devenues des traditions transmises au fil des générations. C'est peut-être d'ailleurs à cela que Jésus fait allusion quand il parle ici de ceux qui enseignent aux autres à faire de même. Les traditions. Et le problème, c'est que les scribes et les pharisiens étaient tombés dans une obéissance qui s'attachait plus à la forme extérieure de la religion qu'à la motivation profonde, intérieure. Or, l'Écriture, l'Ancien Testament, Samuel chapitre 16, verset 7, nous rappelle que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, ce qui se voit, mais l'Éternel regarde au cœur, c'est-à-dire à nos intentions, à nos motivations profondes, et pas d'abord à la liste d'actes religieux que nous avons accomplis. Et donc, la justice meilleure, dont Jésus parle au verset 20, ce n'est pas celle d'une pratique plus religieuse ou plus scrupuleuse encore que celle des pharisiens, comme s'il fallait en faire plus encore qu'eux, mais une justice qui prouve que nous avons changé de mentalité, de manière de vivre. Obéir à la loi de Dieu, oui, mais pas pour se faire bien voir aux yeux de Dieu ou aux yeux des hommes. Et là, il y a un lien à faire avec les béatitudes. Chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, verset 3, Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Ça ne veut pas dire heureux les imbéciles, hein. Ça veut dire heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, donc dépendants de Dieu, qui ne sont pas autosuffisants, qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas justifier leur bonté devant Dieu. Obéir à la loi de Dieu, c'est mettre en pratique cette première béatitude. Ce sont ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres qui entrent dans le royaume des cieux. Pas ceux qui pensent capitaliser des points pour le paradis par leur obéissance à la loi. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ce travail-là, qui peut changer notre mentalité. Cela ne veut pas dire que lorsque le Saint-Esprit vit en nous, nous sommes dispensés d'obéir à la loi de Dieu. Nous venons de lire que Jésus nous rappelle qu'il faut obéir à toute la loi, et cela jusqu'à son retour. Si nous pensons que, parce que nous sommes chrétiens, nous n'avons de compte à rendre à personne, et nous pouvons vivre à notre manière, selon nos règles, cette mentalité n'est pas celle de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous fait penser de cette manière. C'est notre égoïsme, notre individualisme, et c'est une façon pour nous de justifier nos péchés tout en gardant une apparence religieuse ou chrétienne. Et nous aboutissons finalement à la même impasse que la religion des pharisiens. Cette justice supérieure ou meilleure que Jésus demande doit témoigner d'un changement de vie radical, d'une nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau, comme dit Jésus à Nicodème dans Jean chapitre 3. Alors, et alors seulement, nous pouvons être sel et lumière pour ce monde. Le verset 16, qui est juste avant notre texte de ce matin, nous dit, c'est Jésus qui parle, « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » C'est quoi ces œuvres bonnes ? C'est la manière dont nous obéissons à la loi de Dieu jusqu'au retour de Christ. Et cela doit rendre gloire à Dieu. Nos œuvres bonnes, ce ne sont pas nos qualités ou nos capacités personnelles, mais la motivation profonde et la persévérance que le Saint-Esprit nous donne pour obéir à Dieu, pour sa gloire et non la nôtre. Je reviens donc à la question de tout à l'heure. Comment faire pour mettre en pratique toute la Bible ? Et j'ajoute, avec ces versets 19 et 20, comment faire mieux que les pharisiens, que les gens soi-disant religieux ? Réponse. Premièrement, il faut naître de nouveau. Il faut reconnaître que Jésus est bien ce Christ, ce Messie, ce roi annoncé dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, et l'accepter comme sauveur et maître de notre vie. Deuxièmement, il nous faut lire les textes de l'Ancien Testament à la lumière de la venue de Jésus et de ce que les auteurs du Nouveau Testament disent. Qu'est-ce que Jésus enseigne ? Qu'est-ce que sa mort à la croix et sa résurrection accomplissent dans tout ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament ? Prenons quelques exemples. Dans l'Ancien Testament, il y a pas mal de textes historiques, des histoires qui nous sont racontées. Par exemple, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois. Nous voyons dans ces livres la mise en place d'une royauté humaine, qui est un véritable fiasco, un échec, qui aboutit à l'exil du peuple. il n'y a pas de roi parfait. Même David, même Salomon ont leurs échecs. Et pourtant, c'est dans cette lignée royale humaine décevante que Jésus est venu pour nous sauver et pour régner avec une justice parfaite. Dans l'Ancien Testament, il y a aussi des textes de loi. Qu'est-ce que nous mettons en pratique aujourd'hui? Là, il faut distinguer entre le principe ou les principes de la loi, qui sont toujours actuels, et ce qui est lié aux circonstances sociales, culturelles, etc., de l'époque du peuple d'Israël. Je vous donne un exemple. Vous m'avez peut-être déjà entendu le donner. Deutéronome, chapitre 22, verset 8. Je vous le lis rapidement. Si tu bâtis une maison neuve, certains ici ont construit leur maison, si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison dans le cas où il en tomberait quelqu'un. J'en connais aucun parmi nous qui a mis une barrière sur son toit pour obéir à ce verset. Pourquoi ? Parce que nous vivons à Blanc-Ménil en 2017 et que, contrairement à ce qui se faisait à l'époque, nos maisons n'ont pas des toits plats. Et donc, si vous mettez une balustrade sur votre toit aujourd'hui à Blanc-Ménil, vous n'êtes pas en train d'obéir à la parole de Dieu. C'est juste stupide. La question, c'est quel est le principe moral de ce verset? C'est celui de la sécurité des habitants de la maison. Quand on a un toit plat en terrasse, on met une barrière autour du toit pour que, quand on est sur le toit, c'était comme une pièce à vivre, hein, on ne tombe pas. Eh bien, comment ça se traduit aujourd'hui? Comment est-ce qu'on met en pratique un verset comme ça? Pas en mettant une balustrade sur son toit, mais par exemple, en empêchant ses enfants d'avoir accès à des produits d'entretien dangereux. Et donc, on met en hauteur, par exemple, dans un placard, tout ce qui pourrait empoisonner nos enfants. Alors, on n'est pas en train de construire une balustrade sur notre toit, mais on est en train de les protéger. Autre exemple, si on a des jeunes enfants, mais on pourrait peut-être réfléchir aussi si on a des adolescents à la maison, on ne leur met pas un accès libre à Internet dans leur chambre. Parce qu'on sait ce qui se passe aujourd'hui. Des gens mal intentionnés qui viennent jusque dans nos foyers, nos chambres, pour nous tenter financièrement, sexuellement. Et donc on fait attention et on protège ceux qui sont dans la maison. Vous voyez, on pourrait multiplier les exemples, vous pourrez peut-être penser à d'autres situations personnelles. Dans l'Ancien Testament, encore, je terminerai par là, il y a des textes prophétiques. Pour ces textes, il faut lire et comprendre ce que Jésus et les apôtres, les auteurs du Nouveau Testament, disent au sujet de la réalisation des prophéties de l'Ancien Testament. Et il faut, je crois, s'en tenir à leurs paroles. Il y a dans l'Ancien Testament, pensons par exemple au livre du prophète Ésaïe, Daniel, des textes qui parlent de la fin de notre monde, du jugement dernier. Simon a rappelé tout à l'heure qu'il y aura un moment où la patience de Dieu aura atteint sa limite et ce sera l'heure des comptes. Quand Jésus parle à ses disciples de sa deuxième venue, du moment où il va revenir, et quand il parle du jugement dernier, il dit par exemple, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Matthieu chapitre 24 par exemple. Eh bien, régulièrement, je trouve dans ma boîte mail des messages de gens souvent bien intentionnés qui annoncent une date pour le retour de Christ ou pour un enlèvement de l'Église. Alors que Jésus dit, c'est écrit noir sur blanc, que personne ne peut le savoir. Pas même le Fils, dit Jésus. Que notre boulot, ce n'est pas de faire des calculs et d'interpréter les étoiles, mais de veiller. Et qu'est-ce que ça veut dire veiller ? Ça veut dire obéir au Christ en attendant son retour. Jésus nous rappelle ce matin à l'obéissance à la loi de Dieu, à toute la loi. Alors, n'obéissons pas de manière simpliste en sortant des versets de l'Ancien ou du Nouveau Testament, de leur contexte, pour leur faire dire ce qui nous arrange, mais obéissons à Dieu avec intelligence. Comprenons ce que dit la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, afin de mener, en particulier pendant cette semaine, une vie qui plaise réellement à Dieu et qui n'est pas seulement une apparence chrétienne. Notre foi chrétienne doit grandir en maturité, devenir moins émotionnelle et plus ancrée dans l'Écriture. Toute l'Écriture qui nous sert de guide spirituel jusqu'au retour de Christ. Pour cela, nous avons besoin que le Seigneur Jésus nous vienne en aide. Qui a déjà tout compris ? Qui obéit déjà parfaitement à la loi de Dieu ici ? Personne. Nous allons prier. Merci Père parce que tu as envoyé Jésus pour nous montrer d'une part que ta loi est bonne, d'autre part qu'il l'accomplit parfaitement. Et cela nous rappelle que ce n'est pas notre cas. Nous ne sommes pas capables d'obéir parfaitement à ta parole, parce que le péché tord nos bonnes motivations, nos bonnes intentions. Oh, nous disons des bonnes choses. C'est aussi là un effet de ta grâce. Mais trop souvent, nous nous éloignons de toi. Nous nous arrangeons avec ta parole pour justifier certains de nos choix, certains de nos comportements. Seigneur, tu connais nos cœurs à chacun, notre situation personnelle. Rien ne t'est caché. Alors nous voulons humblement venir devant toi, te demander, pour la première fois peut-être, ou une nouvelle fois, de nous faire grâce, de pardonner nos petits arrangements avec toi et te demander de nous aider par ton Esprit Saint à mieux t'obéir en comprenant toute ta loi. Aide-nous à veiller, Seigneur, en attendant ton retour. Aide-nous à t'aimer. Aide-nous à t'obéir cette semaine. Amen.